Alors nous sommes en presque direct de la fête de la science devant un public passionné, captivé et nombreux. Merci à vous d'être ici pour cette conférence. Donc je rappelle que ce contenu sera diffusé sur Radio Campus Tours, qui est la radio étudiante de Tours. Donc nous avons le plaisir de recevoir Benoît Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vois qu'il y a un incident électronique un peu plus loin. Bonjour Benoît Pierre, donc peut-être on peut rappeler à nos auditeurs que vous êtes historien spécialiste de l'histoire des relations entre le politique et les religieux à l'époque moderne, et depuis 2016, vous êtes directeur du CESR. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est le CESR ?
CESR, c'est un, d'abord et avant tout un laboratoire de recherche, c'est une unité mixte de recherche, une UMR. Et nous avons l'honneur d'avoir une triple tutelle, donc l'Université de Tours, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche via l'Université, le CNRS, et donc nous avons des agents CNRS, des chercheurs aussi CNRS, et également le ministère de la Culture.
Il me semble que vous intéressez aussi aux sciences participatives au sein du CESR, est-ce que c'est juste ?
Oui, parce que le CESR, c'est aussi une formation, de master et de doctorat, donc une UFR. Et par ce biais-là, nous versons dans la formation depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Il y a toujours eu cette appétence pour faire passer le savoir dans la formation. Et puis, depuis de nombreuses années également, on s'ouvre à la société dans son ensemble et ce qu'on appelle parfois de manière un peu méprisante le grand public, comme s'il n'y avait pas aussi de petit public. Donc cette diversité du public, et nous cherchons à partir de cette matière qui est extrêmement prisée, qu'est la Renaissance, à justement l'expliquer en des mots simples, ce qui n'est pas toujours évident, et à comprendre les rouages et la dynamique, ou les dynamiques de la Renaissance. Et nous utilisons pour cela, et c'est un objet aussi de formation, nous utilisons toutes les nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui, à la fois l'audiovisuel, mais aussi beaucoup le numérique, de reconstituer, de donner à voir et donner à comprendre.
Alors avant que d'en venir à notre sujet, qui est la gestion des émotions à la Renaissance, peut-être qu'on peut refaire une mise en contexte pour nos auditeurs qui peut-être ne seraient pas familiers de la Renaissance. Alors c'est quoi la Renaissance ? C'est quel espace-temps ? C'est où ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y vit ?
Alors c'est effectivement un espace-temps, mais c'est aussi une culture. Alors nous le définissons au CESR de la façon suivante. D'abord, effectivement, une période qui est beaucoup plus large que le simple XVIe siècle, même si beaucoup de choses se jouent au XVIe siècle. Donc nous remontons un peu en amont et nous allons aussi en aval, donc du XIVe au XVIIe siècle, de Pétrarque à Descartes. Ça, c'est pour étudier la Renaissance dans tout son déploiement. Aussi, il y a bien de la pré-Renaissance. Certains de mes collègues travaillent d'ailleurs aussi sur le XIIe siècle, puisqu'il y a des phénomènes de Renaissance qui se déploient. Tout ça aussi sur la définition même d'une Renaissance, hein, qui est en discussion depuis de très nombreuses années, qui est un concept qui a été forgé en fait au XIXe siècle, hein, par rapport à une sorte de médiévale, une période médiévale qui serait une période sombre, donc la Renaissance qui serait celle des arts et d'une période du beau également, mais le XVIe siècle entre autres, et également le XIIIe et XIVe sont des siècles, XIVe, XVe sont des siècles aussi de fer, et des siècles extrêmement sombres. Donc il faut essayer de comprendre justement cette dynamique de cette période dans ce temps long. C'est aussi un espace. Alors c'est l'espace européen, mais que nous ne considérons pas comme un espace qui vient s'imposer à l'ensemble du monde, y compris d'ailleurs notamment par les grandes découvertes, mais un espace qui définit une culture et qui va rencontrer d'autres cultures avec l'intention certainement de les soumettre. Mais dans les faits, il y a beaucoup de transferts plutôt culturels qui se passent dans un sens et dans l'autre. Et puis, je l'ai dit, c'est une culture. Et là, c'est le temps de ce temps essentiel de l'humanisme ou des humanismes, parce qu'il y en a plusieurs, ou des humanistes, dans une séquence du premier, second et troisième humanisme. Et donc, c'est la volonté de revenir dans son essence première, de revenir au sens premier du christianisme, de revenir aux sources du christianisme, via les évangiles en particulier, et donc de retrouver le sens originel de la foi chrétienne. Cet humanisme, il est chrétien, il n'est pas laïcisé, il n'est pas laïque, il est chrétien, complètement chrétien, et donc cherche à retrouver l'amour christique. Et par ce biais d'une méthode qui s'appelle la philologie, c'est-à-dire l'archéologie des textes, retrouver par l'archéologie des textes le sens premier. Et ces humanistes donc, considèrent partout en Europe que, dans le premier humanisme, que l'Église n'a pas joué totalement son rôle en démultipliant les gloses, les interprétations et également tout ce qui concerne la scolastique. Et donc se sont plutôt éloignés du sens originel, qu'ils ne se sont imprégnés de ce sens originel qu'il a retrouvé. Donc c'est une démarche qui est une démarche positive en matière de théologie et de redécouverte du sens, mais qui va aussi générer de fortes tensions en interne et également qui va remettre en cause aussi plus généralement au sein même de l'Église catholique cette Église avec ces grands schismes qui vont exploser, qui vont générer donc des guerres de religion. Alors il n'y a pas de lien de cause à effet, tout cela est lié à une culture qui est une culture plurielle, et donc des tensions très fortes qui amènent à une implosion en fait de cette soi-disant unité chrétienne qui n'existait pas, mais qui malgré tout était pensée comme telle.
Alors je regarde le public, je rappelle que surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester pour les poser. Et alors, les questions des émotions. C'est peut-être étonnant comme objet d'histoire, les émotions, parce que c'est pas matériel, c'est pas palpable. Donc comment on peut étudier les émotions?
Alors là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, d'autant que à la Renaissance, si on prend ce temps long, l'émotion, à proprement parler, le mot même n'existe pas. Ou du moins, il n'est pas utilisé comme nous l'utilisons aujourd'hui dans des sociétés qui sont dans l'hyper-émotionnel. Donc il n'existe pas, on a les mots de esmouvoir, malgré tout, le verbe. Il est beaucoup appliqué aussi pour des objets, pour de la matérialité. La terre peut s'esmouvoir lorsqu'elle tremble, par exemple. Et elle est beaucoup liée aussi à la théorie des humeurs, donc le fait que l'homme est pétri de quatre flux d'humeur, enfin les quatre éléments, et ces quatre éléments qui le composent déterminent dans leur équilibre ou leur déséquilibre son état de santé. Donc on a un mot en revanche qui prend beaucoup plus le dessus par rapport à émotion, je parle vraiment de la période qui nous concerne, ce sont les passions. Et là, on a effectivement un mot qui s'inscrit pleinement à la fois dans la spiritualité, dans la théologie, dans la pensée, la science politique qui émerge au début du XVIe siècle avec Machiavel, donc de contrôler les passions, de pouvoir dominer aussi les passions. Donc c'est plutôt le mot passion, et à partir de là, effectivement, on a beaucoup de sources qui sont imprimées et manuscrites qui reflètent cela tant du point de vue de l'individu que du point de vue du collectif. Et c'est ça qui est intéressant, puisque nous sommes dans des sociétés qui ne séparent pas l'homme de son tout. Nous sommes dans des sociétés néoplatoniciennes. L'homme est inséré dans un tout. Il est une unité de l'unité. Et donc ça permet d'avoir des systèmes de compréhension globaux aussi à partir des comportements qui sont des comportements individuels.
Alors, quelles sources vous avez? Vous dites, vous cherchez plutôt du côté, donc le mot, les passions, c'est des écrits, des représentations picturales. Qu'est-ce que vous avez comme source?
Toutes les sources à disposition, effectivement, de l'historien. Ça va de la représentation, de l'iconographie, en passant par les textes, des textes normatifs, des textes de témoignages, des comptes rendus, des minutes de telle ou telle session, d'accord constitué. D'un corps constitué qui lui-même a des prétentions et donc peut faire valoir certaines formes d'émotion pour les mettre en scène. Nous sommes quand même dans des sociétés qui sont des sociétés du sensoriel. Donc effectivement, l'émotion, elle est bien présente, même si elle n'est pas exprimée comme telle ou si elle est exprimée à partir du registre de la passion. Donc pour pouvoir étudier les émotions, il faut plutôt recourir à l'histoire des sens. Quelque sorte, qui est aussi quelque chose qui est difficile à faire, puisque là, cette sensorialité, bon, qui a été étudiée d'ailleurs par des historiens qui se sont lancés dans cette histoire de l'émotion. C'est Lucien Febvre qui disait que l'émotion était un objet à part entière. Et donc cette histoire en trois tomes de l'émotion dans un collectif, Corbin, Vigarello et puis Courtine, qui se sont lancés il y a quelques années dans cette entreprise d'une histoire de l'émotion qui va détourner aussi quelque part les sources qui ne sont pas faites pour refléter l'état des émotions. Et donc c'est toutes les sources qui évoquent justement ce sensoriel, qui évoquent d'un point de vue peut-être plus normatif la sémantique de la passion. Donc c'est toutes les sources.
Est-ce que vous voudriez nous en citer quelques-unes qui vous semblent particulièrement intéressantes ?
À proprement parler sur l'émotion, il n'y en a pas une qui peut ressortir. Je vous dis, toute l'iconographie, par exemple, qui reflète l'histoire des cités, l'histoire des républiques italiennes, ce que l'on trouve par exemple à Sienne sur le discours du bon gouvernement, reflète justement cette maîtrise des passions, cet ordonnancement. D'où vient la nécessité de maîtriser les passions à la Renaissance? C'est que on considère que de cette maîtrise des passions découle aussi le bon ordonnancement du monde. Cet ordonnancement, il est un ordonnancement qui est nécessairement hiérarchisé dans une conception aussi de la société qui amène le subalterne à respecter le supérieur dans une relation du don et du contre-don. Et de ce point de vue-là, donc la passion doit l'amener à un amour, mais qui est un amour, j'allais dire, contractualisé quasiment, d'un point de vue coutumier. Donc il n'y a pas une source qui me vient à proprement parler au vu de la grandeur ou de l'espace archivistique que nous avons ici. Il faut dépouiller des traités qui sont des traités de politique, des jurisconsultes, des traités qui vont être des traités du bon gouvernement, en passant par des traités de spiritualité ou de théologie, où l'on trouve justement ce substrat, qui est ce substrat intellectuel et culturel qui permet de comprendre l'articulation et l'agencement de ces passions.
Et alors, quelle vision on a, vous avez déjà commencé à répondre à cette question, mais quelle vision on a des émotions à cette époque-là? Parce que dans notre 21e siècle, on commence plutôt à inciter les gens à s'exprimer leurs émotions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public. Mais qu'en est-il de la Renaissance?
Alors, je pense que d'abord, et c'est ce qui est très bien vu dans cette histoire, cette anthologie, l'histoire de l'émotion, il faut distinguer l'émotion ou les passions d'un point de vue supérieur dans cette hiérarchie, donc au sein des cours, des passions ou des émotions du quotidien. Sur ces passions et ces émotions du quotidien, on a finalement peu de sources. Et pourtant, si l'on observe la littérature humaniste, on voit bien que les émotions sont partie prenante, notamment du courant humaniste. Je prends Rabelais, le rire et la joie font partie de cette culture qu'on pourrait qualifier de manière un peu caricaturale de culture populaire, puisqu'on a bien montré qu'il n'y avait pas de distinguo entre culture populaire et culture des élites. Ce faisant, par rapport donc à ces émotions, ce que l'on constate, c'est que sur le plan de la norme curiale, il se déploie, beaucoup d'ailleurs aussi avec le déploiement du Concile de Trente, donc en s'appuyant sur les Églises, se déploie une norme, c'est ce que a très bien vu Norbert Elias dans La civilisation des mœurs, en ne s'appuyant justement que sur ces normes. Donc à partir du milieu du XVIe siècle, vous passez à une codification, à une préséance qui nécessite un plus grand contrôle de ses émotions, un plus grand contrôle de ses passions. J'en reviens à ce que je disais sur le lien, sur le néoplatonisme du XVIe siècle. L'idée, c'est que l'âme ne peut s'élever que si elle domine ses passions. On ne peut pas, dans cette réflexion, extraire aussi un autre élément que j'ai défini en introduction, ce sont les passions religieuses et les affrontements religieux. Nous sommes dans une période qui cherche à sortir des affrontements religieux et qui n'a pas les outils intellectuels, j'allais dire, pour le faire. la tolérance n'existe pas. C'est une notion de la fin du XVIIe siècle. Comme elle n'a pas d'outils intellectuels, elle fonctionne avec sa propre culture, et la culture est celle de retrouver l'unité perdue. C'est un des mots clés de la Renaissance, dans ce temps-là, retrouvons l'unité perdue. Et vous avez face à cela différents comportements, différentes attitudes, positionnements. Il y a ceux qui considèrent que ça se fera par la violence, et ceux, globalement, qui considèrent qu'on pourra trouver un point de rencontre entre protestants et catholiques, ceux qui sont sortis de l'Église dite désormais catholique, qui sont sortis donc aussi pour eux de l'espace chrétien, et ce qu'ils considèrent comme des hérétiques et des schismatiques, et puis ceux qui en sont sortis qui considèrent que l'Église catholique n'est pas en mesure, sur certains points théologiques, notamment l'Eucharistie, de réunir l'ensemble des confessions et des églises qui sont en train de se constituer. Donc cet élément de la rencontre ou de la pacification est essentiel pour comprendre justement ces passions et le regain de passion, et comment on va faire pour tenter d'y sortir intellectuellement. Je vais prendre quelqu'un comme Montaigne. On parlait d'une source. Dans les essais, bien sûr, il y a des éléments tout à fait tangibles. Hein. Il est pyrrhonien, il est un néo-stoïcien qui s'appuie sur l'école du pyrrhonisme, l'école de l'Antiquité, et qui considère que on doit se soumettre aux autorités. Je renvoie à cette idée de bonne hiérarchie. On doit se soumettre aux autorités en place, y compris d'ailleurs les autorités ecclésiales et religieuses, pour pouvoir vivre dans la paix. Donc l'esprit de révolte n'est pas dans le cortex ou dans l'idéologie de Montaigne. Il a été, il ne faut pas oublier, aussi maire de Bordeaux. Et donc réfléchit sur comment ces bonnes hiérarchies peuvent se maintenir. Et pour lui, donc, c'est un comportement qui est un comportement aussi individuel, qui doit amener les individus à contrôler leurs passions, à se soumettre aux autorités pour pouvoir en fait dégager une forme de liberté aussi d'action. Donc tout ça pour répondre et tenter une réponse à votre question. Nous sommes dans un siècle qui a bien des siècles qui ont bien des émotions individuelles et collectives, mais nous sommes aussi dans des siècles qui cherchent progressivement, liés à un contexte, beaucoup de différences entre du 13e, 14e, 15e siècle au 16e et 17e siècle. On peut dire, si on cherchait à avoir une ligne qui est une ligne directrice, nous avons des siècles qui progressivement cherchent vraiment à maîtriser les passions, à tenter aussi de réactiver via l'humanisme ce néo-stoïcisme pour permettre justement d'éviter les affrontements, et notamment les affrontements religieux. Et tout ça parallèlement aussi, je parlais du Concile de Trente, à un positionnement des églises qui cherchent à éviter la reprise des conflits, tout en essayant aussi de convertir ceux qui sont sortis de l'Église. Il n'y a pas de, encore une fois, on n'est pas dans un système de tolérance, donc on va chercher à les convertir d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes plutôt dans des siècles qui vont chercher au contrôle des passions et des émotions, alors que dans la première partie, les passions pouvaient véhiculer aussi des éléments qui étaient des éléments positifs. Je pense par exemple à Erasme dans l'Éloge à la folie. L'une des passions qui le mobilise le plus, c'est la joie, et la joie de l'amour christique. Donc nous sommes dans une version qui est une version émotionnelle à des fins qui sont des fins d'approcher aussi la divinité. Donc si on veut comparer avec aujourd'hui, dans ce rapport entre raison et passion, au XVIe et surtout au XVIIe siècle, la raison doit contrôler les passions. Donc si la raison peut ou doit s'élever, elle doit contrôler ses passions. À des fins aussi qui sont la plupart du temps des fins de découverte intime et intérieure de la divinité. Si on voit par rapport à aujourd'hui, le rapport en fait est inversé, ou quasiment inversé. Dans le couple, et peut-être même il est disloqué. Aujourd'hui, nous sommes dans l'hyper-sensationnel, dans l'hyper-émotionnel. Il faut dire ses émotions pour pouvoir témoigner. La raison n'est pas toujours intégrée dans ces processus. L'irrationnel, le sensationnel, l'émotionnel font partie pleinement de notre culture. Et c'est bien ce qui est là où, souvent le bât blesse, c'est qu'à partir de cette convocation des émotions, on en tire des vérités, des vérités qui sont basées sur un affect et du sentiment. Alors, je ne veux pas dire que les sens ne jouent pas leur rôle dans la cognition, hein, dans la découverte, et c'est très important. L'émotion est pleinement intégrée au schéma de découverte et d'apprentissage. Mais pour autant, à partir du moment où vous en faites un principe de vie, quasiment, où vous en faites un principe de décision, vous n'avez plus la possibilité de vous appuyer sur des faits qui sont des faits avérés et donc qui permettent de dégager, en se retirant, en se dégageant de l'affect, des positions qui sont des positions qui peuvent être ensuite discutées. C'est tout le processus aujourd'hui et toute la difficulté hein, du processus aujourd'hui démocratique lorsque l'émotionnel rentre de manière trop forte dans les arcanes de soit la décision, soit du débat. Par comparaison, donc, j'allais dire, et pour dans un contexte qui est totalement différent, pour des questions beaucoup aussi à la fois d'ordonnancement politique, mais aussi d'ordonnancement religieux, la Renaissance au sens très très large, tel que je l'ai défini du XIVe au XVIIe siècle, sont plutôt des siècles qui cherchent donc à dominer ces passions, à les dominer aussi pour trouver des espaces qui sont des espaces de pacification.
Et alors, est-ce qu'il y a des émotions qui existaient à cette époque, qui n'existent plus aujourd'hui? On peut trouver peut-être des idées comme la délectation, la compunction, la sédie, la vergogne. Est-ce que c'est des émotions qui ont disparu?
Alors, ces émotions ne peuvent pas disparaître. Elles représentent, ça c'est la différence des champs sémantiques. Elle représente des champs sémantiques légèrement différents, et pour autant, ces émotions existent, me semble-t-il toujours, d'une façon ou d'une autre, mais elles ne sont pas représentées ou elles ne sont pas formulées de la même façon. Le champ des passions au XVIe et XVIIe siècle, malgré tout, est relativement codifié. Est codifié aussi par ce que je disais tout à l'heure, la théologie qui en fait un état, une anatomie des passions relativement bien fixée, hein, qui se fixe progressivement aussi au XVIe et surtout au XVIIe siècle avec la théologie morale.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se départir de l'idée de péché?
Pour la période de la Renaissance?
Oui, c'est-à-dire que c'est forcément lié au péché originel, aux sept péchés capitaux. Est-ce qu'il y a une idée que l'émotion, c'est péché?
L'émotion, passion non contrôlée, renvoie effectivement au péché. La révolte, par exemple, cette passion collective, est décriée, sauf par ceux qui la font. En revanche, vous avez des émotions, de bonnes émotions. Je prendrai l'exemple des larmes du roi. Henri III pleurait devant ses parlementaires. Et il y a de très bons articles, notamment de Xavier Luperson, sur cette question. Les larmes d'Henri III, c'est dans son article d'ailleurs, les larmes d'Henri III. Il pleurait, pourquoi pleurait-il? Ben, c'est à la fois une forme de bienveillance, c'est une expression d'une émotion qui ramène le roi au niveau de ses parlementaires. On est quand même dans une relation qui est une relation d'une justice qui a été déléguée, d'une justice qu'il peut reprendre à tout moment. Et il le fait justement à quel moment? Ben quand il fait un lit de justice, c'est-à-dire quand il reprend sa justice. Donc ces larmes sont l'expression de son pouvoir. Il est à la fois dans la recherche d'une compréhension, d'une forme de tristesse qui l'amène à un acte qui est un acte d'un pouvoir qui est réaffirmé. Donc on voit comment aussi ces émotions peuvent être considérées comme de bonnes émotions du point de vue du pouvoir lorsqu'elles amènent à l'expression justement d'une autorité restaurée.
Il y a d'ailleurs un article dans Le Monde diplomatique qui est paru récemment sur les larmes du pouvoir. Ça me fait penser à ça, sur l'idée que ces larmes qui peuvent paraître comme une émotion féminine, en fait c'est vraiment un outil intéressant pour affirmer son pouvoir.
Oui, et on voit aujourd'hui, on a des exemples en tête, je ne les prendrai pas, vous en avez certainement, d'hommes politiques ou de femmes politiques qui pleurent ou expriment que les larmes leur viennent aux yeux Alors là, pour le coup, c'est pas pour reprendre une partie du pouvoir, mais c'est, je pense, pour exprimer aussi, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas en train de dire que tout est calculé, loin de moi cette idée, mais ils expriment aussi le fait qu'ils sont hommes à part entière et que donc ils sont touchés également par la sensibilité. Et donc ce paralangage est très important. Hein, alors que spontanément, ce que l'on attend de l'homme politique, un peu, ou de la femme politique, un peu de ce que Montaigne exprime, lui, à travers aussi les essais, c'est plutôt une maîtrise de ses émotions, une maîtrise, un contrôle aussi du corps, et un contrôle, oui, de ses propres passions. La colère ne fait pas bon ménage, sauf lorsqu'elle a aussi une fonction d'exprimer de manière peut-être abrupte une forme d'indignation. Donc elle peut aussi avoir ce que l'on trouve à l'époque médiévale. On trouve cela, la colère, c'est ce qu'a très bien montré, ce qu'ont très bien montré plusieurs historiens qui travaillent notamment sur les barbares, considérés comme par les Romains comme ne pouvant pas maîtriser leurs émotions, donc des guerriers qui versent systématiquement dans la violence. On a montré, en s'appuyant sur leur propre documentation, que en fait la passion ou la colère était une expression de l'autorité qui, à un moment donné, était utilisée pour clore un échange et exprimer l'autorité du souverain ou du prince. On a ça à la fin de l'époque médiévale aussi. On trouve cela très fréquemment dans les grandes monarchies européennes. L'expression du prince peut être parfois exprimée avec une forme de non pas de colère à proprement parler, mais d'une forme de fermeté, d'une rigidité aussi qui exprime l'autorité finale du prince, qui, dans le cadre d'ailleurs de ses conseils, laisse la parole, hein, chacun, il y a un tour de table qui est effectué, les quelques minutes que nous avons permettent de comprendre comment les choses se passent, et ensuite c'est le roi qui tranche, ou ne tranche pas d'ailleurs s'il n'a pas encore l'ensemble des éléments pour pouvoir affirmer son autorité. Il y a dans ces minutes parfois la révélation que l'un des conseillers a pu parler avec des expressions qui étaient des expressions relevant en quelque sorte d'une forme de colère ou d'une fermeté dans la prise de décision, dans la nécessité de passer à l'acte, par exemple, de la guerre, notamment. Donc nous avons, du point de vue du pouvoir, effectivement, une forme d'instrumentalisation des passions, encore une fois, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Elle est beaucoup plus codifiée à l'époque moderne, parce que cette maîtrise justement des passions, elle est aussi enseignée au futur souverain lorsqu'il est jeune enfant, et avec ses précepteurs, il doit lui aussi être digne de sa fonction, hein, c'est la théorie des deux corps du roi, il doit être digne de sa fonction et doit se montrer à la hauteur, et ça passe aussi par les bonnes vertus, les vertus cardinales, et également par cette maîtrise des passions qui ne sont que le reflet de cette maîtrise des vertus.
Et alors ici, on a des hommes de pouvoir, disons, qui se mettent en colère, qui pleurent, donc finalement qui lâchent, enfin, qui perdent leur maîtrise. Mais est-ce que, curieusement, on pourrait penser plutôt que c'est ce côté de ne pas réussir à être maître de soi, c'est plutôt du côté... Je dis bien, c'est un cliché, bien sûr, de l'époque, mais c'est plutôt du côté féminin, en fait. On suppose souvent plutôt que c'est des femmes qui ne savent pas se contrôler. Donc là, est-ce que c'est à dire que finalement, à cette époque, il n'y a pas d'émotion féminine ou masculine ?
Pardon, c'est votre dernière question.
Je dis, est-ce qu'à cette époque-là, on ne considère pas qu'il y a des émotions plus féminines que masculines ?
À partir du moment où on est dans un schéma de maîtrise de ses émotions et des passions, pour s'élever et élever son âme, être dans la raison, mais dans une raison, encore une fois, qui est une raison divine. Il est certain que on distingue les hommes des femmes qui sont plus à même de maîtriser leurs passions, qu'on considère plus à même de maîtriser leurs passions que les femmes, sauf lorsqu'on est dans un schéma qui est un schéma de femmes engagées dans des ordres religieux, moniales, sœurs, qui justement versent dans la mystique, et je pense aux grandes moniales, Antoinette d'Orléans par exemple, les grandes moniales du XVIIe siècle, qui d'ailleurs peuvent avoir ponctuellement des fonctions qui sont aussi des fonctions politiques, de conseil en tous les cas. Il y a bien un distinguo qui est fait entre des femmes qui ne maîtriseraient pas leur passion et des hommes qui doivent et les maîtrisent mieux. Ça, c'est assez clair dans les propos. Et d'ailleurs, cette forme de discrimination, même si c'est un mot qui n'a pas de sens dans la culture de la Renaissance, ce distinguo qui est fait amène aussi à cette différenciation sociale, avec des statuts qui sont des statuts différents, des femmes qui sont plus dans une position effectivement de subalterne dans le cadre familial ou dans le cadre même curial, même si elles peuvent jouer des rôles très importants de pouvoir ou de direction. Je pense notamment à tout le secteur de l'imprimerie, mais ça se passe à partir du moment où elles deviennent veuves. Et elles récupèrent en fait l'entreprise familiale, quelle qu'elle soit, ou à partir du moment où elles sont veuves à un niveau qui est un niveau plus élevé dans les hiérarchies de l'époque, à savoir par exemple les cours où les régentes ont cette fonction, une fonction politique essentielle. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'elles fonctionnent à partir de ce moment-là sur des canons qui sont des canons imposés par le temps, de cette maîtrise des passions et de cette maîtrise des émotions. Donc, toute à la fois du point de vue de la théologie, des discours qui sont qui distinguent, enfin qui font du pater familias celui qui a droit de vie et de mort sur les siens, hein, quand même. Et donc une position qui est une position plus importante ou considérée comme telle à l'époque que celle des femmes, effectivement. Concernant les émotions, la non-maîtrise des émotions est attribuée aux femmes, alors que la maîtrise des émotions et des passions sont attribuées aux hommes.
À votre avis, comment ces conceptions des émotions de la Renaissance continuent d'influer le XXIe siècle ? Est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui ?
Sur le fait que la maîtrise des émotions est gage de raison, de plus de raison, dans un mouvement qui est un mouvement aussi de sécularisation de ce principe dualiste, hein, d'une corps et âme, l'âme est prisonnière de son corps. Hein. Le corps, c'est le lieu des passions, le corps. Le corps est le lieu des sens et des passions. L'âme, c'est la raison qui permet à l'âme de s'élever. Donc si on sécularise ce schéma-là, on a quelque chose qui aujourd'hui, c'est aussi ce qui reste dans notre culture, à savoir que, et c'est tout l'esprit du monde de l'éducation, je pense, aussi, et de la formation, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants, qu'il faut des éléments avérés, il faut argumenter, il faut organiser sa pensée. Donc ça, c'est la raison. Bien sûr, faire jouer de l'émotion, l'émotion de la découverte, je l'ai dit tout à l'heure, la joie, le plaisir de la lecture, toutes ces émotions positives qui sont dans la conception de la culture européenne, dès la Renaissance, des outils, en fait, qui permettent, des éléments qui permettent aussi d'élever la raison, d'élever aussi le débat individuel et collectif. Donc ce qu'il reste, c'est ça. Je pense que ce sont des éléments que l'on trouve dans la Renaissance positive, dans la Renaissance qui est la belle Renaissance, celle qui amène aussi aux arts, celle qui amène à la création et aussi à l'innovation. Je dis toujours que l'humanisme contemporain, donc qui est pétri de ces éléments-là, de à la fois maîtrise des émotions et d'émotions positives dans le même temps, peuvent trouver leur origine, peut trouver cet humanisme son origine dans le XVIe siècle, à condition de lui enlever à des fins aussi de prise de distance par rapport à la foi et à la croyance, hein, qui relève désormais, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, de l'intimité et du fort intérieur, et des choix individuels. Et bien, à partir du moment où on sécularise, en permettant à chacun de trouver sa voie, y compris sur le plan religieux, c'est effectivement l'origine pourrait être l'humanisme du XVIe siècle. Donc un humanisme qui ne serait plus chrétien. Donc on l'extrait de son laboratoire de naissance pour pouvoir effectivement le faire évoluer vers une conception qui est une conception plus contemporaine. Donc de cela, effectivement, certainement qu'il y a des points qui sont des points d'origine, mais sans être aujourd'hui en mesure de pouvoir l'établir de manière assurée dans une conception linéaire et ascensionnelle de l'histoire.
Et alors, pour finir, avant que nos spectateurs puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent, comment nos hommes politiques et femmes politiques pourraient s'inspirer de façon judicieuse de la Renaissance? En quoi ça pourrait les inspirer?
Il y a peu d'inspiration possible. On est dans des systèmes qui sont culturellement trop éloignés pour pouvoir trouver des sources. On peut trouver des ramifications, on peut trouver des points communs ponctuellement, encore une fois, en faisant ce travail d'un canevas qui est un canevas qu'on va rendre peut-être plus neutre par rapport à son contexte d'émergence. Et dans le même temps, si je prends l'exemple de Montaigne et des essais, la petite biographie de Montaigne d'Antoine Compagnon a été classée numéro 1 des ventes pendant très longtemps, en s'appuyant sur ce qu'est Montaigne et l'esprit de Montaigne, sur aussi la très grande modernité de son texte, hein, face à l'adversité, face aux crises, face aux dangers du monde, comment l'individu peut-il se comporter peut-il se comporter non pas dans une retraite totale, mais bien dans une possibilité de pouvoir agir. Donc il y a bien des éléments, à partir du moment où on les interprète, on les adapte aussi à son contexte, qui permettraient à des hommes politiques, dans la philosophie de manière un peu plus générale d'ailleurs, et pas simplement, je pense aussi à celle du 18e et à celle du 19e, de la prise de distance. Aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus important, c'est cette prise de distance. Cette prise de distance par rapport à l'émotionnel, par rapport au sensationnel, par rapport à l'hyper-réactivité qui suscite justement les émotions. Les émotions, c'est de la dopamine. Hein. Les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de dopamine. C'est comment on se met en scène, comment on joue aussi sur l'émotionnel. Et on suscite aussi l'émotionnel pour le meilleur et pour le pire. Et donc, j'allais dire, s'il y a bien quelque chose qu'on peut entendre dans une version laïcisée aussi, que j'évoquais précédemment, c'est comment aujourd'hui la raison, mais c'est aussi la raison du 18e, c'est la raison des Lumières, c'est la raison du 19e siècle, et une partie du 20e siècle, qui est, si on l'analyse, beaucoup basée quand même sur l'irrationnel. Hein. Nous avons eu des régimes totalitaires qui n'existaient pas auparavant, fondés justement sur l'irrationnel, fondés sur la désinformation, fondés aussi sur l'exclusion. À partir de cette émotion. La montée d'Adolf Hitler est dans un contexte de crise économique, mais fondée aussi, ou basée aussi sur le registre de l'hyper-émotionnalité pour fédérer, retrouver une forme d'unité perdue à partir de l'échec de la guerre de 14-18. Il a beaucoup suscité finalement les émotions, et l'irrationalité fait partie pleinement des régimes totalitaires qui bannissent les intellectuels et la raison. parce que la raison oppose un constat. Donc c'est cela aujourd'hui, à la fois peut-être ce que l'on peut trouver en tant que chercheur, et puis un souhait qui est presque personnel, c'est comment on fait revenir la raison dans le débat, à partir donc en mobilisant des faits avérés, des données qui sont des données chiffrées, qu'on peut discuter éventuellement, mais à un moment on essaie de trancher aussi sur la question des données, et de pouvoir établir non pas une seule solution, mais un ensemble de solutions à partir de considérations qui sont posées. Et ensuite, c'est là où le politique peut faire son choix en fonction de ce qu'il estime être la solution la plus juste, la plus nécessaire pour ses concitoyens. Et de cela, dans cette prise de décision, là, on ne peut rien trouver de commun avec des régimes qui sont des régimes soit dynastiques, y compris en système républicain, soit monarchiques. C'est-à-dire la décision, in fine, dans une prise de décision où chacun s'exprime, mais où c'est le prince, quel qu'il soit, qui prend la décision finale dans cette conception hiérarchique que j'évoquais précédemment. Donc de cela, on ne peut pas tirer bien sûr exemple, puisqu'il n'y a pas de... S'il y a discussion et constante négociation dans ces régimes, aussi sur un registre qui est un registre parfois de l'émotionnel, je pense aux grandes fêtes, aux grandes entrées royales, il y a beaucoup d'émotions, puisqu'il y a beaucoup de spectaculaires, mais dans ces spectacles, il y a aussi un discours qui est un discours politique de ce fameux don et ce contre-don. Donc ça, c'est un registre que nous ne connaissons plus en système républicain, et j'allais dire, c'est tant mieux. Il peut exister, mais en tous les cas, il n'est pas... Il ne procède pas d'une valeur qui est, par exemple, l'égalité des chances. Bourdieu a bien montré, effectivement, que en fonction de l'endroit, du lieu social que l'on côtoyait et auquel on appartenait, il y avait des itinéraires qui étaient déjà préfixés, hein, des habitus maîtrisés, ou Raymond Boudon, qui a dit, en termes de stratégie, qui arrive à peu près à la même chose. C'est des stratégies différentielles en fonction du corps social auquel on appartient. Certes, mais malgré tout, il y a des principes et des valeurs qui sont posées, et c'est par rapport à ces valeurs que l'on doit tenter de réduire ces inégalités, ces principes d'égalité des chances. L'égalité des chances n'existe pas dans la première modernité. C'est pas un principe qui est un principe établi, c'est un principe révolutionnaire et post-révolutionnaire. Donc on s'écarte un peu, mais si je peux dire... Il y a le seul point que je vois vraiment de lien possible et de source possible de réflexion, c'est sur ce contrôle et cette maîtrise de l'irrationalité et de l'émotionnel, et qui conduit à un moment ou à un autre à la révolte. Alors il y a de bonnes indignations. Il y a de bonnes indignations. À partir du moment où ces bonnes indignations peuvent intervenir dans le débat démocratique et sont fondées sur des résultats qui sont des résultats avérés. Et c'est là où le discours scientifique a sa responsabilité aussi. Il doit amener tous les éléments pour répondre aux grands défis de demain. Il le tente, on l'a vu avec le Covid, il essaie de contribuer à cela, mais c'est aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales, la capacité de résilience des sociétés, la capacité d'adaptabilité des sociétés, tout ça, c'est des choses que les scientifiques peuvent, auxquelles les scientifiques peuvent répondre ou aider, en tous les cas, aider à la prise de décision par la réflexion, et par une réflexion qui est dans une forme d'observation participante, certainement, mais qui cherche justement une objectivation et qui cherche aussi le temps long par rapport à cette hypersensibilité qui ne fait qu'accélérer finalement par l'émotionnalité, qui ne fait qu'accélérer le processus de circulation, et notamment la circulation de la désinformation. Donc un retour à la raison, un retour au temps long et peut-être un peu moins d'émotion ou d'émotionnalité négative dans tout cela, allant vers des conceptions aussi, conceptions de l'osium par exemple, qui est une conception, alors pour le coup, très de la Renaissance, c'est-à-dire le plaisir des lettres. L'osium literatum, le plaisir de ce qu'on trouve chez tous les humanistes, hein, l'osium literatum, c'est le plaisir de lire, le plaisir d'écrire, le plaisir de manier les humanités et les bonnes lettres.
Donc indignez-vous, mais avec mesure.
Indignez-vous avec des raisons d'indignation. Il y a aussi, me semble-t-il, de bonnes indignations et de mauvaises indignations à partir du moment où elles ne sont pas avérées. J'ai un exemple qui me vient en tête aujourd'hui, je peux évoquer, hein, c'est comment peut-on s'indigner aujourd'hui face à la vaccination à plus grande échelle, dont on sait aujourd'hui, et c'est prouvé par des études, il y a eu plusieurs milliers d'études pendant la période de confinement, même s'il y a certains points, s'il y a beaucoup d'études, ça veut dire qu'il y a des divergences de vues, forcément, mais on sait qu'aujourd'hui, le meilleur dénominateur commun pour éviter la pandémie, c'est le vaccin. Donc je ne comprends pas, comme j'ai vu hier, dans les rues de Tours, les gens s'indignaient de cette vaccination et s'indigner du port du masque dans des lieux publics, qui va cependant certainement être tiré progressivement, puisqu'il y a un taux de vaccination qui est aujourd'hui suffisamment élevé. Et l'on voit bien que même avec cette vaccination, ces deux doses, eh bien, il est possible qu'il y en ait une troisième, et peut-être un cycle plus important aussi de doses. Donc nous devons vivre avec cela aujourd'hui, et l'indignation, c'est plutôt... serait la bonne indignation serait d'essayer que les choses aillent encore mieux pour que ce Covid et cette crise puissent s'estomper. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse remettre en cause par l'émotionnalité des faits avérés et des études de scientifiques qui passent leur vie à chercher et à essayer de trouver le meilleur pour nos sociétés.
Et alors, pour finir, à votre avis, quel rôle les journalistes ont à jouer dans cette gestion de l'émotion populaire ?
J'étais aux Assises du journalisme où le sujet a été évoqué, puisque j'assistais à la session où il y avait Nicolas Hulot, qui n'a pas pu en placer une et a préféré se retirer. On a vu que l'émotionnalité, justement, l'émotion est venue sur le devant de la scène. Nicolas Hulot, de manière très juste, a évoqué, lui, le droit et la justice, qui est un pouvoir à part entière, et donc qui permet de délivrer à un moment une sanction ou simplement un bilan, enfin de donner un résultat d'une procédure. Le sujet a été évoqué. Et juste à la fin, sur la place de l'émotion, justement, aujourd'hui, je pense qu'un journalisme responsable, c'est un journalisme qui, un peu comme les scientifiques, prend de la distance par rapport à ses objets et n'est pas lui-même dans l'accélération du mouvement à vitesse grand V et de la circulation de la rumeur, soit d'une information qui n'est pas suffisamment vérifiée. Et quand je dis vérifier, c'est pas vérifier juste l'information, parce que une information en soi, si elle n'est pas corrélée à d'autres informations et d'autres données, n'a pas beaucoup de sens pour lui, n'a pas beaucoup de sens au sens de lui donner du sens aussi de compréhension, et peut être très, très vite mal interprétée. Donc le journaliste, il est là aussi pour décrypter ces différentes données, pour leur donner de leur profondeur, et notamment leur profondeur historique. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent que nous, historiens, nous sommes des journalistes du passé, mais on n'est pas toujours soumis, ou très rarement même soumis, on a de la chance, on n'est pas soumis à l'urgence de l'actualité, on n'est pas soumis à l'urgence des réseaux sociaux, et si on s'y soumet, c'est toujours avec de la profondeur et de la prise de distance, parce que finalement, nos objets sont des objets qui sont des objets froids. Je ne travaille pas sur la collaboration, je ne travaille pas sur les régimes totalitaires, je ne travaille pas sur les partis politiques d'extrême gauche ou d'extrême droite. Jusqu'à une période récente, je ne travaille pas sur le temps présent. Donc forcément, il y a des matières qui sont des matières beaucoup plus froides, et finalement c'est beaucoup plus confortable et beaucoup, peut-être en apparence beaucoup plus simple. Et pourtant, même sur nos périodes, on voit beaucoup de lieux communs.
pas dire qu'on détient une vérité. Hein. Nous cherchons toujours pour améliorer, nous améliorer dans la connaissance la plus précise et la plus objective que l'on peut avoir de nos objets. Mais on a beaucoup de lieux communs que l'on voit aussi dans l'industrie touristique. C'est aussi pour ça que on intervient dans cette industrie touristique à des fins aussi d'objectivation de l'objet, de compréhension des objets de manière simple. Je reviens à ce que je disais sur l'utilisation du numérique que l'on a justement à la fête de la science, sur quand même des notions qui ne sont pas simples de la Renaissance, hein, la projection en art, la réduction en art, la mécanique, l'architecture, bref. Et donc cette objectivation, c'est ce qui est aujourd'hui nécessaire au journalisme. J'entends des journalistes de renom qui enseignent dans les instituts de journalisme et qui l'appellent de leur vœu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font beaucoup de mal au journalisme. Et d'ailleurs, j'allais dire, si on ne s'appuie que sur les réseaux, hein, 80% des Français prennent leurs informations exclusivement des réseaux sociaux. Donc non pas cette... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bonnes informations sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise aussi les réseaux et j'ai parfois des sources d'informations intéressantes puisqu'on diffuse aussi des articles. Donc je n'ai pas nécessairement toujours le temps de lire en faisant des revues de presse quotidiennes. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments extrêmement positifs. Et en même temps, dans cette... il y a la contrepartie de cette accélération de la désinformation. On sait que beaucoup des informations véhiculées sont en fait de mauvaises informations ou mal retranscrites ou mal interprétées ou volontairement d'ailleurs détournées de leur sens premier pour pouvoir augmenter cet état d'émotion et donc de tension qui en résulte forcément, l'esprit panique. Alors le sujet était pour les assises sur... la crise climatique, qui est une crise anxiogène, et c'était rappelé qu'elle suscite des émotions et des émotions négatives. Le rapport du GIEC est effrayant, et il est scientifique, donc il est avec des données avérées. Maintenant, c'est comment, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai entendu ce soir-là, c'est comment le journalisme peut être aussi un journalisme de construction, c'est-à-dire qu'il apporte aussi des solutions à partir d'un État. Il n'est pas là pour trouver les solutions, mais il est là pour voir les solutions qui fonctionnent, c'est-à-dire avoir un regard qui est un regard aussi critique sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là aussi, c'est une démarche qui est une démarche, c'est pas pour rien que les journalistes ont souvent fait des études d'histoire, c'est une démarche qui est une démarche critique des sciences humaines et sociales, quelles qu'elles soient, et qui amène à comparer, à analyser dans son propre espace ou dans des espaces mitoyens, à l'intérieur ou à l'étranger, et donc de pouvoir établir aussi et donner à voir et à comprendre sur ces solutions qui nous permettent de répondre aux grands défis, quels qu'ils soient. On ne se souvient, je sais qu'on ne se souvient que des trains qui déraillent, mais je pense qu'il faut souvent, et le plus souvent possible, rappeler qu'il y a des trains qui fonctionnent.
Benoît Pierre, vous êtes directeur du CESR. Merci à vous d'avoir pris le temps de cet échange. Donc je me tourne pleine d'espoir vers les personnes qui sont ici dans cette salle. Est-ce que vous avez des questions pour Benoît Pierre? Non, eh bien tant pis. Merci beaucoup à vous aussi d'être resté ici. Le mot de la fin.
Merci beaucoup pour votre invitation. Radio Campus, c'est une radio que j'écoute, j'ai beaucoup de collègues qui y sont passés et ça nous permet aussi d'avoir ce dialogue avec vous, journalistes, ce dialogue sur ce temps long qui nous permet aussi de réfléchir à notre temps présent, et c'est bien pour ça que je suis historien, d'abord et avant tout. Merci à vous.
Et alors, question piège, vous écoutez quoi sur Radio Campus ?
J'écoute les collègues, et notamment les collègues historiens, qui eux-mêmes le diffusent assez rapidement sur soit les réseaux, soit sur nos propres plateformes, et donc principalement effectivement les collègues historiens. Donc je reste quand même dans mon domaine.
Voilà, donc très bonne émission, un tour d'histoire en effet, qui est porté par le département d'histoire et d'archéologie de l'université de Tours. Et on vous invite évidemment à aller retrouver les podcasts sur notre site radiocampustours.com.